L'énigmatique Charles de Gaulle, il faut que je justifie cette expression. En 1965, Jean Lacouture, que vous connaissez peut-être, qui a fait un très beau Mauriac et qui prépare en ce moment un Madès France, avait fait, sous de Gaulle, président de la République, un petit livre courageux, même audacieux, donc je répète, 65. Et à la fin du petit livre, il y avait ceci. De Gaulle est un personnage disjoint, ambigu, avec des cavernes impénétrables. Ça, c'est publié, c'est imprimé. Mais maintenant, je vais vous donner un détail plus personnel. J'ai été, vous savez, 17 ans diplomate, et j'avais parmi mes chefs un ambassadeur qui s'appelait Monsieur Chauvel, qui avait d'abord servi Pétain pendant 2 ans, et qui avait fini par rejoindre De Gaulle au début de l'année 43. Et quand j'étais son collaborateur, Monsieur Chauvel a employé cette phrase que je lui ai demandé l'autorisation de répéter, je peux donc le faire. Monsieur Chauvel me disait, quand je suis allé trouver De Gaulle, je pensais trouver Jeanne d'Arc, j'ai trouvé Louis XI. Évidemment, quant à Jeanne d'Arc et Louis XI, il y a une dissemblance, quoique Louis XI ait été certainement un grand roi. Voyez donc que le personnage est complexe. Comprenons bien ce que je veux faire aujourd'hui dans cet exposé sur De Gaulle. Je m'arrête à une certaine date qui est le 20 janvier 1946. Vous l'avez sans doute oublié, à cette date, De Gaulle a quitté volontairement le pouvoir qu'il avait pris pratiquement le 25 août 1944 en arrivant à Paris. Alors on va le regarder agir pendant ses 50 premières années, puisqu'il est né en 1890 et qu'en 1940 il avait donc 50 ans. Et nous allons voir en particulier ce qu'il va faire, évidemment, à partir du fameux 18 juin 1940. Allons très vite pour regarder ce qui précède. Il était donc né en 90, ses parents étaient pas fortunés. Vous savez, son père était un professeur d'enseignement libre. Il y avait 5 enfants, 1 fille et 4 garçons. C'était lui le 2e garçon. Il prépare Saint-Cyr, ses parents sont ravis. Vous savez, dans cette petite bonne bourgeoisie française, un garçon qui veut préparer Saint-Cyr serait presque aussi bien que s'il voulait préparer le séminaire. Il entre à Saint-Cyr, et là, c'est intéressant de savoir que tous ceux que l'on a interrogés, que les souvenirs de ceux qui étaient les condisciples de De Gaulle, à Saint-Cyr, ont tous dit la même chose. Premièrement, il était le plus grand, sa promotion, il avait été 92, on l'appelait l'asperge ou le double maître, mais il ajoutait à la hauteur de sa taille une hauteur de comportement très flagrante, méprisant, hein. Il n'avait pas de camarades. Il était volontiers ironique, et tout le monde signale qu'il avait un goût très vif pour le théâtre. Chaque année à Saint-Cyr, il y avait une représentation théâtrale et il demandait et il jouait un rôle, et en particulier, si possible, le premier rôle. Bon, il sort de Saint-Cyr, c'est juste avant la guerre, il est sous-lieutenant au 33e régiment d'infanterie. Son colonel s'appelle Pétain et le colonel le remarque en disant c'est un très brillant sujet. Il fait ce qu'on appelle une guerre brillante, il est blessé 3 fois, il est fait prisonnier, il s'essaye de s'échapper, il terminera la guerre dans un camp de représailles, s'étant évadé en vain 5 fois, ayant été toujours repris. Et de 1919 à 1939, c'est-à-dire entre les deux guerres, il fait une carrière intéressante, non pas de garnison en garnison, essayant de s'approcher du gouvernement. Le voilà qui est en effet, dès 1931, je crois, secrétaire au comité permanent de la défense nationale, qui est donc rue Saint-Dominique, au ministère de la guerre. Il s'est fait envoyer à Beyrouth, où il a été, parce qu'il est sorti de l'école de guerre, où il a été à l'état-major français de Beyrouth. Enfin, nous arrivons à 1939, à la drôle de guerre, où il est à ce moment-là colonel. Il a déjà publié 4 bouquins, l'un que personne ne lit, on a tort, 1924, qui s'appelle « La discorde chez l'ennemi », les raisons qu'il envisageait du désastre allemand. Un autre qui s'appelle « Le fil de l'épée », dont je vous parlerai à la fin de cet exposé. Un autre qui s'appelle « Vers l'armée métier », où en 1934, il indique que la France a besoin de divisions blindées et on ne l'écoutera pas. Et vous savez sans doute qu'il y avait 15 ou 14 divisions blindées lorsque les Allemands ont attaqué en mai 40 et que la France n'avait que 3,5 divisions. Eh bien, lui avait, dès 39, dit, il est indispensable d'avoir des divisions blindées. Ben, peu importe. Puis en 38, alors, il fait son livre sur la France et son armée, qui le brouille avec le maréchal Pétain. Enfin, nous arrivons donc à 39. 39, c'est la guerre, mais c'est la drôle de guerre. Il est colonel à Metz et il s'impatiente de voir qu'on ne fait rien. Et voilà qu'en janvier 40, ce jeune colonel fait quelque chose de très inadmissible, semble-t-il, puisqu'un officier ne peut rien publier sans l'autorisation de ses supérieurs, et que lui publie, quand je dis publie, c'est pas tout à fait vrai car il ne l'a pas fait imprimer, mais fait tirer à 80 exemplaires renotypés un mémorandum. Il a appelé ça mémorandum. Dans ce mémorandum, où il s'adresse à la fois aux responsables politiques de la guerre et aux généraux, à Gamelin, quoi, il dit « on va se faire battre si nous n'avons pas de division blindée ». Bon, ça tombe à l'eau, il avait un appui, un seul appui politique important, Paul Reynaud, qui était le seul homme politique qui s'intéressait à une solide division blindée. Reynaud l'avait même attaché à son cabinet au début de la guerre. Puis on ne faisait rien, De Gaulle était reparti à Metz. Et voilà que la guerre éclate réellement le 10 mai 1940. Et bien de même qu'il s'était battu très courageusement en 14-18, il va prendre tous les risques, enfin, puisqu'il est à la tête de sa demi-division blindée. À deux reprises, il va foncer contre les Allemands. La première fois à Montcornet, c'est un mot un peu comique, et le vilain canard enchaîné se moque très injustement de ce nom où De Gaulle a été très courageux. Et la deuxième fois, c'est à la hauteur d'Abbeville, nous sommes le 28 mai, où il va remporter un des très rares succès, hélas, que les troupes françaises vont remporter en 40. Il va faire reculer les divisions allemandes sur 40 kilomètres de profondeur, hein, ça compte, fera même 600 prisonniers, mais enfin, ça ne change pas le sort de la guerre, et voilà que l'armistice semble menaçant. Il a été nommé le 1er juin général de brigade à titre temporaire, en raison de son courage aux armées, mais Paul Reynaud, qui s'intéresse à lui et qui est maintenant président du Conseil, le fait entrer au gouvernement, ce qu'il avait désiré depuis longtemps. Le voilà sous-secrétaire d'État à la guerre, le 5 juin 1940, il a un bureau rue Saint-Dominique, et il s'oppose là de la manière la plus violente à ce maréchal Pétain avec lequel il était brouillé pour des raisons personnelles en 1938. Mais maintenant, la brouille a une toute autre raison, c'est que Pétain est acharné à l'idée d'un armistice le plus rapidement possible. Laissez-moi vous dire dans une parenthèse que si Pétain tient tellement à l'armistice, c'est qu'il fait de la politique intérieure depuis des années, depuis 1934, et que Pétain envisage ce désastre militaire, certes bien pénible, comme une occasion pour lui de réaliser sa politique intérieure. Or, De Gaulle tient qu'il y a encore possibilité de se défendre, sinon dans l'Hexagone, du moins peut-être dans l'Afrique du Nord. Il y a tout de même un très grand nombre de soldats français qu'on peut faire partir en Afrique du Nord. On a commandé 1000 bombardiers aux États-Unis qui peuvent rejoindre l'Afrique du Nord. À deux reprises, De Gaulle est envoyé auprès de Churchill pour demander aux Anglais ce qu'ils peuvent mettre comme bateau à la disposition de la France pour transporter des hommes en Afrique du Nord. Et la deuxième fois que De Gaulle va voir Churchill, c'est le 16 juin 1940. Lorsqu'il rentre à Bordeaux, le gouvernement se trouvait, dans la nuit du 16, il apprend qu'il n'y a plus de gouvernement Paul Reynaud, que c'est le maréchal Pétain qui a pris le pouvoir, égale immédiatement armistice. Alors c'est là où il va prendre la détermination que vous savez. Le lendemain, 17 juin, il regagne Londres. Il a 100 000 francs, c'est rien, hein, de fonds secrets que lui a donné Paul Reynaud. Il va trouver Churchill dans la même journée et lui demande l'autorisation de faire un certain discours que nous appellerons l'appel du 18 juin, qui est en fin de journée, en fin d'après-midi, le 18 juin. Attention. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'appel du 18 juin n'est pas conforme à ce qu'il avait dit réellement ce jour-là. Il va faire un second appel le 22 juin. Le premier a un caractère uniquement militaire, le second a un caractère nettement politique. Alors plus tard, De Gaulle combinera les deux affirmations pour faire ce que l'on appelle aujourd'hui l'appel du 18 juin. Alors regardons de près. Le 18 juin, De Gaulle dit seulement « Moi, général De Gaulle, me trouvant en Angleterre, j'invite les officiers ou soldats français qui s'y trouvent ou qui viendraient à s'y trouver. Hein. » Il les invite à quoi ? À se mettre en rapport avec moi, car la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Comprenez qu'il s'agit simplement d'un général français qui dit « Moi, je refuse l'armistice, j'essaie de grouper autour de moi des Français qui constitueraient, si je puis dire, une espèce de légion étrangère française sur sol britannique pour continuer la lutte, tandis que le 22 juin, De Gaulle va reprendre la parole à l'UBC, cette fois sur un plan politique. Que dit-il ? Il dit « Je dénie toute légitimité à ce gouvernement qui vient de se constituer avec l'autorisation de l'Allemagne, qui n'a d'existence que par la permission de Hitler, qui ne peut pas représenter la France, et moi, général De Gaulle, avec les quelques Français « libres » entre guillemets que j'ai réunis à Gaulle, à Londres, je représente la véritable légitimité française. » C'était évidemment une audace incroyable. Comme il dira au début de ses mémoires de guerre, « Seul et démuni de tout, je me faisais l'effet de quelqu'un qui prétend traverser l'Atlantique à la nage, et c'est vrai que c'était une audace incroyable. » Seul, il avait espéré des appuis. Il avait espéré, par exemple, que l'ambassadeur de France, qui s'appelait Corbin, l'ambassadeur de France à Londres, se rallierait à son groupe des Français libres. Cet ambassadeur s'était très bien conduit, absolument indigné du comportement du maréchal, il avait démissionné. Quant à donner son nom, lui, ambassadeur, à un jeune général de brigade inconnu qui constituait une sorte de pseudo-gouvernement, il ne l'avait pas fait. dois dire que De Gaulle s'était aussi approché d'un Français très connu qui habitait à ce moment-là à l'Angleterre, qui était André Mauroy de l'Académie française. Il avait demandé à Mauroy d'entrer dans son comité, Mauroy s'était écarté. Je crois pouvoir dire que de Mauroy craignait beaucoup une offensive aérienne sur le Londres et qu'il avait préféré vivre aux États-Unis. Toujours est-il qu'effectivement, De Gaulle est seul, démuni de tout. Il a les 100 000 francs, ce qui est rien, que lui a donné Reynaud, mais Churchill lui a dit, si vous réunissez des hommes, ne vous inquiétez pas, c'est le gouvernement britannique qui les payera. Mais enfin, c'était évident que c'était presque démentiel ce qu'il demandait. À quoi avait-il obéi? À deux raisons qu'il a exprimées plus tard et que je vais essayer de vous résumer. Une première raison qui était d'une indignation, une seconde raison qui était un calcul. Quelle indignation? Eh bien, suivez avec moi les empiétements en Europe d'Hitler. Voyons, Hitler s'était emparé successivement de quoi? De la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Norvège, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique. Tout, vous entendez bien, tout. Les gouvernements de ces pays étaient passés à l'étranger. Le roi belge, pour des raisons personnelles, restait, mais le gouvernement belge, comme vous le savez, était à Londres. Or, il n'y avait qu'en France, qu'un gouvernement s'était constitué sur place, et ce gouvernement n'était là que par l'autorisation allemande. La reine Wilhelmine, qui était réfugiée, je crois, au Canada, avait envoyé un admirable message à ses sujets, quand elle avait appris que Hitler n'avait pas trouvé un seul Hollandais pour faire sa politique sur le sol hollandais. Vous savez sans doute qu'Hitler avait dû s'adresser à un Autrichien qui s'appelait Seyss-Inquart. Alors dans un très beau message, la reine Wilhelmine avait dit, voyez-vous, Hitler n'a pas trouvé un seul Hollandais pour faire sa politique, cette ignominie du moins nous a été épargnée. Pas de Hollandais pour faire le travail. Cette ignominie n'avait pas été épargnée aux Français, puisque Hitler avait trouvé un maréchal de France pour faire sa politique. Si bien qu'il y aurait des décrets signés Philippe Pétain, mais contre-signés dans l'ombre Adolf Hitler. Donc, indignation de Gaulle en disant, c'est pas possible, on ne peut pas admettre ça. Raison de calcul. Il l'expliquera le 30 juin, du reste, à Maurice Schumann, qui va le rejoindre et qui sera, vous le savez, le porte-parole de la France libre. Et il lui dit, actuellement, le rapport de force est en faveur de l'Allemagne, c'est évident. La France est écrasée, l'Angleterre tiendra-t-elle le coup? Je l'espère, les Allemands sont les plus forts. Mais j'affirme, disait De Gaulle, intelligent, j'affirme que l'année prochaine ou plus tard, en 41, Hitler aura contre lui les Russes parce qu'il va les attaquer, c'est certain. Et il aura les Américains parce que Roosevelt n'acceptera jamais que l'Europe soit nazie. Par conséquent, le rapport des forces sera renversé, Hitler sera le plus faible et sera écrasé. Si bien que le maréchal Pétain a misé sur le mauvais cheval en misant sur la victoire hitlérienne, et nous, les Français libres, on mise sur le bon cheval, car la victoire appartiendra certainement aux Russes et aux Américains et aux Français libres réunis. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, quand on regarde de près son comportement, c'est pas commode. Il aura de grosses difficultés avec ses alliés, c'est-à-dire avec les Anglais et avec les Américains surtout, et il aura des difficultés que vous ignorez, qu'il me plaît guère de vous dire, mais je dois vous le dire, avec la résistance française. Voyons, du côté des Anglais. Père Churchill, au début, s'était dit, j'ai devant moi un auxiliaire, un soldat français, un général français, qui va réunir des soldats français. Au bout de peu de temps, Churchill s'aperçoit qu'il n'a pas devant lui simplement un auxiliaire, mais un partenaire. C'est-à-dire quelqu'un qui représente les intérêts français, et qui ne veut pas que les Anglais, qui ont souvent rivalisé avec les Français, profitent de la faiblesse française pour avancer leur propre position. Lorsque, c'est exprès que je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsqu'il a été à Beyrouth pendant 2 ans, il s'était aperçu des intrigues. Moi-même, je suis allé à Beyrouth en 37, et je me rappelle très bien ce qu'on me disait. Les Anglais voudraient nous chasser, nous les Français, de la Syrie et du Liban, et prendre nos positions. De Gaulle se méfie de ce que pourraient faire les Anglais. Alors il est intraitable à l'égard de Churchill. Et vous savez, il devra avaler une terrible couleuvre lorsque arrivera le drame, enfin la tragédie de Merselkébir. Je comprends très bien que les Anglais pouvaient craindre que la flotte française de Merselkébir ne tombât au pouvoir des Allemands. Mais quand les Anglais vont démolir un certain nombre des cuirassés français et vont tuer quelque chose comme 1300 marins français, il y a chez eux en même temps une arrière-pensée, ils étaient très inquiets de la puissance navale française et par conséquent cette puissance navale diminuée les arrangeait bien. De Gaulle est obligé d'avaler cette chose très dramatique. Mais enfin, il résiste, par exemple, lorsque les Anglais ont décidé d'envahir la Syrie, puisque la Syrie restait avec le général Detz dans l'obédience de Vichy, il ne va pas permettre aux Anglais d'entrer seuls en Syrie, et lui qui avait pourtant déclaré « jamais je ne lancerai des soldats français contre d'autres soldats français », il va bien le faire en 1941, parce qu'il ne veut pas permettre aux Anglais de se précipiter seuls sur la Syrie. Il aura beaucoup de difficultés avec Churchill, mais figurez-vous que Churchill finira par l'estimer pas mal. Il y a une ressemblance entre eux. Churchill est un homme, quand il a mordu sur une proie, il ne lâche pas le morceau, et bien de même. Il est agacé par De Gaulle, mais il trouve que De Gaulle lui ressemble, parce que c'est un obstiné, c'est un tenace, et il lui porte respect. Et Churchill sera contraint de défendre, je dis bien de défendre De Gaulle devant les Américains qui ne l'aiment pas. Pourquoi donc? Ben, il y a deux raisons curieuses. Première raison, c'est ceci. Il y avait un certain nombre de Français qui se trouvaient réfugiés ou qui habitaient les États-Unis, soit à Washington, soit à New York, et ils avaient entendu dire qu'il y avait donc un général français, inconnu, qui s'appelait général De Gaulle, qui s'annonçait non seulement comme combattant, mais comme représentant de la France, donc un général qui allait faire de la politique. Vous savez, je comprends, les Français ne sont pas très chauds à l'idée d'un général qui fait de la politique. Vous avez parfaitement oublié, mais je dois vous rappeler que vers 1886-89, il y avait un général français qui s'appelait Boulanger, qui était ministre de la guerre, qui avait eu des arrière-pensées politiques et qui avait même un moment menacé la République. Et puis, les Français avaient tous gardé le souvenir d'un certain général en 1799, qui s'appelait Bonaparte et dont la République n'avait pas eu à se féliciter. Par conséquent, il y avait des Français qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce général de Gaulle qu'on ne connaît pas? C'est peut-être un fasciste, c'est peut-être quelqu'un qui vise à une politique personnelle. » Roosevelt, très attentif à l'idée démocratique, se méfiait de ce de Gaulle. Bon, mais voilà 41. 41, les Hitlériens attaquent la Russie. La Russie est donc dans le coup, et voilà que de Gaulle va prononcer des paroles qui exaspèrent les Américains. Paroles prononcées le 4 février 1942, et que je vous lis lentement parce qu'il faut les méditer. L'apparition certaine de la Russie au premier rang des vainqueurs de demain apporte à l'Europe et au monde une garantie d'équilibre dont aucune puissance n'a autant que la France de bonnes raisons de se féliciter. Ça veut vous dire ça? Ça veut vous dire, De Gaulle se méfiait d'une victoire uniquement américaine, parce qu'il se dit, si les Américains sont seuls à vaincre, nous allons être un satellite américain. Tandis qu'heureusement, il y a les Russes qui sont dans le coup, alors moi qui représente la France, je peux faire une diplomatie d'équilibre, j'utiliserai les Américains contre les Russes et les Russes contre les Américains pour que la France puisse avoir une politique indépendante. Ça exaspère beaucoup les Américains d'entendre un général français dire heureusement que les Russes sont dans le coup, si bien qu'il va y avoir de nouveau une distance accrue même entre les Américains et De Gaulle, et les Américains vont tenter à deux reprises de le supprimer. Premièrement, lorsque, sans en avoir averti le général de Gaulle, c'était tout de même raide, hein, ils vont faire le 8 novembre 1942 leur débarquement en Afrique du Nord, De Gaulle sera profondément humilié du secret qu'ont gardé les Américains à son égard, et encore plus humilié du comportement des Américains à l'égard de qui? Darlan. Vous savez que Darlan était un collaborateur, qu'il avait été plus collaborateur que Laval en 1941, et voilà que Darlan, qui se trouvait, peut-être par hasard, je n'en sais rien, qui se trouvait à Alger au moment du débarquement américain, retourne sa veste et dit « Je suis du côté des envahisseurs ». Il se brouille, au moins en apparence, avec Pétain, mais les Américains l'utilisent en disant « C'est parfait, c'est un grand personnage, et puis ça nous débarrassera de De Gaulle ». Heureusement, si je puis dire, enfin, par bonheur, le 24 décembre 1942, Darlan est assassiné. On a même dit que De Gaulle était responsable de cet assassinat. Je suis convaincu du contraire, mais il n'a qu'à se féliciter de la disparition de Darlan. Alors que vont faire les Américains? Ils vont trouver quelqu'un d'autre pour le jeter dans les pattes de De Gaulle. Un certain général Giraud, qui lui n'était pas un simple général de brigade, mais un général de corps d'armée, qui avait été fait prisonnier, qui s'était très courageusement évadé, qui était rentré en zone non occupée, que je n'oserais jamais appeler la zone libre. Et à peine rentré en zone non occupée, ce général Giraud avait fait une déclaration publique en disant « Je suis de l'obédience du maréchal Pétain, et j'appuie la politique du maréchal et celle du président Laval ». C'est allé très loin. Eh bien, les Américains s'en moquent, si je puis dire, et ils disent « Si on peut avoir Giraud, il sera beaucoup plus malléable, beaucoup plus docile que De Gaulle, on va essayer de mettre Giraud à la place de De Gaulle ». Alors ça, c'est assez amusant de voir le duel qui va se produire. De Gaulle ne veut pas céder la place, il acceptera sous la pression américaine que Giraud vienne le voir à Alger, mais la lutte entre eux n'est pas égale. Ce monsieur Chauvel, dont je l'ai parlé tout à l'heure, mon ambassadeur, qui se trouvait là, m'a raconté que rien que dans l'apparence des deux personnages, De Gaulle d'un côté et Giraud de l'autre, on sentait que la partie n'était pas égale, en ce sens que De Gaulle avait un grand prestige personnel, c'était un homme très grand, vous savez, qui était à ce moment-là très mince, qui se présentait très bien, tandis que le père Giraud, me disait M. Chauvel, n'avait aucune apparence. Il était un peu ventru, il serrait bien évidemment son ceinturon, il se balançait d'un pied sur l'autre comme un gardien de square, en fait il n'avait pas d'allure. Et deuxièmement, me disait M. Chauvel, bon observateur, avec De Gaulle vous aviez un joueur de poker, le l'autre c'est un joueur de belote, il allait certainement se faire bouffer. Évidemment, c'est ce qui va arriver. De Gaulle va l'emporter sur Giraud, qui ne sera plus rien. Les Américains sont furieux. Et je voudrais vous citer un texte trop peu connu qui est d'avril 1943, au moment où De Gaulle est en train de l'emporter sur Giraud, et où, dans une lettre personnelle de Roosevelt à Churchill, nous sommes en avril 43, ils sont convaincus que la guerre est gagnée, ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on va faire, enfin, quel partage de l'Europe va-t-on faire avec les Russes? Et puis un petit post-scriptum de Churchill. Et De Gaulle, qu'est-ce qu'on en fait? Gouverneur de Madagascar. Vous voyez à quel point Roosevelt voulait écarter De Gaulle. Eh bien, De Gaulle va jouer de la résistance pour expliquer aux Américains, vous devez compter avec moi, car je suis le seul vrai représentant de la résistance française. Voilà du point de vue des alliés. Maintenant, ce que j'ai à vous dire du point de vue de la résistance est peu connu et est assez triste. J'ai été 2 ans sous l'occupation jusqu'au 15 juillet 1942. Je ne sais pas grand-chose, enfin, on fait des petits trucs, quoi. Et nous avions l'impression assez naïve que nous étions observés de loin, de Londres, puis d'Alger, par un général De Gaulle plein de bienveillance et de tendresse. C'est pas vrai. De Gaulle se méfiait horriblement de la résistance. Il aurait voulu que les gens de la résistance se bornassent, vous voyez comme je parle bien, se bornassent à exécuter les missions qu'il leur donnait. Par exemple, des missions que, qu'est-ce que font les Allemands, donnez-nous des renseignements par radio sur les mouvements de troupes allemandes, et faites les opérations militaires que je vous prescris. Faites sauter tel train, faites dérailler tel, enfin sauter tel pont, etc. Mais les résistants, presque tous, pensaient aussi à l'avenir. Une fois que la France sera libérée, quelle sera la politique du général? Eh bien, le général de Gaulle ne permettait à personne de s'occuper des problèmes politiques. Et voici un texte que j'ai extrait de ce fameux mémorandum, vous vous rappelez, hein, janvier 40, ce mémorandum qui était en apparence militaire, mais dans lequel il y avait une toute petite phrase que voici, qui était d'ordre politique. Je la cite, cette phrase, de janvier 40. La crise politique, sociale et morale, dont le présent conflit est issu, revêt une telle profondeur et présente un tel caractère qu'elle aboutira fatalement à un bouleversement complet dans la situation des peuples et dans la structure des États. Vous avez entendu? Et dans la structure des États. De Gaulle prévoit donc qu'au moment de la libération, il y aura de grandes transformations à faire. Il se réserve ces transformations. Il n'entend pas que personne d'autre que lui se décide, prononce, sur l'organisation future de la France. En 72 ou 72, 74, je ne me rappelle plus, un résistant qui était resté longtemps muet, qui s'appelle Henri Freinet, a publié un beau livre extrêmement intéressant qui s'appelle « La nuit finira ». Freinet est un des résistants centristes, si vous voulez. C'est un ami de Bidault, c'était un catholique, je crois, enfin c'était un homme très modéré, vous savez. Rien du tout de communiste. 2 fois, il était allé à Londres, et 2 fois, il avait tenté avec De Gaulle de parler des problèmes politiques. Et 2 fois, De Gaulle lui avait coupé la parole. Et Freinet raconte que la 2e fois, il s'était un peu acharné, il avait dit « même au général tout de même, enfin, qu'est-ce qu'on va faire politiquement ?» Et De Gaulle avait été très raide et lui avait dit « Écoutez, monsieur Freinet, vous direz votre programme, je dirai le mien, la France choisira entre vous et moi. » Bon, il avait compris qu'il fallait pas en parler. Ça, c'est au moment où la résistance n'était encore composée de non-communistes. Mais vous savez bien que les communistes sont entrés en masse dans la résistance lorsque l'URSS a été attaquée, c'est-à-dire en juin 1941. Je dois dire, pour être loyal, qu'un certain nombre de communistes individuels étaient déjà dans la résistance, mais l'appareil du parti, fidèle à la politique du pacte germano-soviétique, soutenait la politique d'Hitler, pratiquement. Alors, réfléchissez à ceci. Tout à coup, en juin 1941, entre en masse dans la résistance française le parti communiste français. C'est une force, hein. Environ 25% d'électeurs. Les communistes sont des gens qui ont un programme, qui sont très disciplinés, qui sont courageux. Et De Gaulle est effrayé à l'idée de penser que cette résistance va lui échapper, elle va peut-être passer entre les mains des communistes. Alors qu'est-ce qu'il fait? 2 choses. Premièrement, De Gaulle jusqu'alors n'avait fait des discours que militaires, et le voilà qui va faire des discours politiques. Écoutez bien ce qu'il dit. Le 1er avril 1942, c'est une révolution. La plus grande révolution de son histoire que la France est en train d'accomplir. La France trahie par ses élites et par ses privilégiés. Un ton assez gauchiste, si je puis dire. 22 juin 42. Tandis que le peuple français s'assemble pour la victoire, il s'unit en même temps pour sa révolution. Et il va beaucoup plus loin. Jusqu'à présent, ce sont des phrases générales. Mais écoutez, il entre dans le détail. 14 mars 1943. Ce que nous voulons, c'est faire acquérir par la nation la propriété des principales sources de richesse. Ben, ça s'appelle collectivisme, ça. Mais il va plus loin. Et assurer à la nation le contrôle du crédit, vous entendez, le contrôle des banques, hein, afin que son activité ne soit plus à la merci de monopoles financiers. Qu'est-ce qu'ils veulent donc faire en faisant ça? Ben, couper l'herbe sous les pieds aux communistes. communiste annonce, comme ils disent, des lendemains qui chantent, et de Gaulle veut faire savoir à ses partisans que lui aussi fera de profondes transformations sociales. Un. Mais deux, il a une idée, fort intelligente, et que voici. Je vais choisir quelqu'un qui n'est pas mal vu des communistes, il s'appelait Jean Moulin. Jean Moulin avait été directeur de cabinet de Pierre Cotte, ça ne vous dit plus rien, mais Pierre Cotte en France avait très mauvaise réputation à droite parce qu'il avait été ministre de l'air, ministre de l'aviation, au moment du Front Populaire. La droite l'accusait d'avoir saboté, ce qui était un scandale, d'avoir saboté l'aviation française au bénéfice des républicains espagnols, ce qui est complètement idiot. Enfin, Jean Moulin était un homme qui avait une certaine couleur gauche et même extrême gauche. Alors, comme Jean Moulin est venu se mettre à la disposition du général de Gaulle le choisit en disant « Voilà l'homme qu'il me faut pour obtenir que les communistes me reconnaissent, moi de Gaulle, comme leur seul chef. » Jean Moulin est un homme qui a le sens de l'État, il avait été préfet à Chartres, et de Gaulle lui fait confiance. Alors voilà Jean Moulin qui est parachuté en France, qui au risque de sa vie va du nord au sud voir tous les groupes de résistance. Il y a des résistances de droite, vous savez, il y avait des royalistes résistants, mais il y avait aussi, surtout, ce qui intéressait de Gaulle, les résistants communistes. Le 27 mai, c'est très important, hein, le 27 mai 1943, Jean Moulin va obtenir ce pourquoi de Gaulle l'avait envoyé en France, c'est-à-dire une signature générale, collective, tout le monde, y compris les communistes, qui disent « Le seul homme en qui nous avons confiance pour conduire la France, c'est de Gaulle. » Comme disait ce monsieur Chauvel, je vous ai déjà prononcé deux fois le nom, « À l'égard de la résistance, de Gaulle en fit état plus qu'il n'en fit usage. » Il va en faire état à l'égard des Américains, il dit « Mais vous froncez le sourcil, vous ne voulez pas de moi, regardez le document. » J'ai un document qui établit que tous les résistants français, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent « C'est le général de Gaulle qui est leur chef. » Ça va servir beaucoup à l'égard des Américains. Mais attention à la suite. Et là, nous entrons dans quelque chose de très dramatique sur lequel je ne sais pas la vérité, alors je serai prudent. Je vous dirai les éléments. C'est le 27 mai, vous l'avez entendu, 27 mai 43, que Jean Moulin obtient ce papier ici nécessaire. Il n'a plus un mois à vivre. Car avant un mois, il aura disparu, il aura été livré aux Allemands, par un homme à qui faisait confiance, qui s'appelait Hardy. Bien entendu, les communistes ont répandu le bruit que de Gaulle avait fait détruire, avait fait tuer, avait fait livrer Jean Moulin aux Allemands. Je ne veux pas le croire. Pas plus que je n'imagine que de Gaulle était responsable de l'assassinat de Darlan, pas plus que je n'imagine de Gaulle donnant à ses services l'ordre de livrer aux Allemands Jean Moulin. En revanche, ce que je peux vous dire, et cette fois non pas avec hypothèse, mais avec certitude, c'est que le BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, c'est-à-dire les barbouzes, quoi, c'est-à-dire les services secrets de Gaulle, détestait Jean Moulin. Je connais le chef des barbouzes, il faisait appeler le colonel Passy, il s'appelait en réalité De Wavrin. De Wavrin avait le droit d'avoir ses opinions politiques, il avait des opinions de droite, des opinions conservatrices. Et De Wavrin considérait avec effroi ce que faisait Jean Moulin, qui avait créé le CNR, Comité National de la Résistance, où les communistes avaient évidemment une place considérable. Alors je peux vous affirmer, ça avec une grande certitude, que du côté des BCRA, on n'aimait pas Jean Moulin. Et je peux aussi vous dire que celui qui s'appelait Hardy et qui était du BCRA est certainement un de ceux qui ont livré Jean Moulin aux Allemands. Je pose donc la question, je dois vous dire, que dans un livre paru en 80 d'Henri Calef, qui s'appelle Jean Moulin, il y a simplement, concernant ce que je vous dis maintenant, une petite note en bas de page, disant ceci, quant à l'arrestation de Jean Moulin, elle pose une des énigmes les plus douloureuses, de l'histoire de la résistance. Bon, plus de Jean Moulin, il est torturé par les Allemands, il va mourir entre leurs mains. Et de Gaulle est exaspéré contre le CNR, parce que Jean Moulin c'était son homme, c'est lui qui l'avait nommé, tandis que le CNR va décider, sans consulter le général, de se donner un nouveau président qui sera nommé Bidault, vous savez Georges Bidault, toujours vivant aujourd'hui, et qui lui n'était certes pas communiste, il était du centre-gauche à peu près. Mais de Gaulle ne lui pardonne pas à Bidault n'être pas nommé par lui, mais d'avoir été nommé par les hommes de la résistance. Et vous ne savez peut-être pas que de Gaulle va immédiatement parachuter en France deux contrôleurs qui sont au-dessus de Bidault, qui doivent coiffer Bidault. L'un civil, dont vous avez oublié le nom, qui s'appelait Alexandre Parodi, et un autre dont le nom est aujourd'hui encore absolument d'actualité, c'est Chaban Delmas. Alexandre Parodi est là du point de vue civil, et M. Chaban Delmas est là du point de vue militaire. Nous arrivons à la libération de Paris. Ben, il y a là-dessus des légendes, encore aujourd'hui vivaces, et que je suis bien obligé de démolir. On a prétendu, j'étais à ce moment-là en Suisse, et la radio suisse, les journaux suisses, disaient « Paris s'est libéré ». Mais non, Paris ne s'est pas libéré. les Allemands avaient décidé d'évacuer le nord de la France lorsque leur verrou d'Avranches avait cédé. Vous savez ce qui s'était passé, d'abord un débarquement américain le 6 juin 44, les Allemands avaient très fortement résisté, Eisenhower piétinait et s'agaçait, enfin il a mis le paquet, il est arrivé à faire sauter ce verrou d'Avranches. Alors à ce moment-là, Hitler dit, ben, il n'y a qu'à faire un repli stratégique considérable, on va se replier sur les Ardennes et peut-être même au-delà du Rhin, mais nous allons évacuer la France du Nord, y compris Paris. Or, pour l'évacuation de Paris, c'était le général von Koltitz qui dirigeait les forces allemandes à Paris. Von Koltitz a décidé de trahir Hitler. Hitler lui avait dit, vous allez faire évacuer, faites évacuer de nuit pour que les Français ne se rendent pas compte qu'on évacue Paris, mais je vous demande, avant de quitter Paris, de faire sauter toutes les unités de la banlieue, puis vous ferez tout ce que vous voudrez, les ponts, la tour Eiffel, Notre-Dame, enfin je veux que Paris brûle. Bon. Koltitz est décidé à ne pas le faire, parce qu'il est convaincu que les Allemands sont perdus, et il prend contact en secret avec les Alliés, grâce au ministre ou consul de Suède, et il leur fait savoir ceci. Je vais faire évacuer, c'est entendu, mais quant à moi, je ne partirai pas, je me remets entre vos mains, je ne ferai rien comme destruction à Paris, à condition que vous m'acceptiez, que vous soyez prévenus à mon égard. Pensez si les Américains sont contents. À Paris, on l'ignore. Il n'y a qu'un très petit nombre de gens, en particulier la police, qui savent que les Allemands s'en vont. Et brusquement, le 18 août 1944, des affiches de mobilisation sont affichées dans Paris, appel à l'insurrection. Il y avait environ quoi? Il y avait environ, je sais pas moi, 3 millions de Parisiens à ce moment-là dans Paris. Combien vont descendre dans la rue? Mettons 4 000. 4 000 sur 3 millions. C'est-ils vont descendre dans la rue, vont organiser de pauvres petites barricades, vont se faire tuer, il y aura quelque chose que 2500 ou 3000 tués. Ces 3000 tués se font tuer en vain. Et ils ne s'en doutent pas. Étant donné qu'ils n'auraient pas bougé, que c'eût été pareil, étant donné que les Allemands s'en allaient. De Gaulle le savait très bien, mais il avait demandé à Eisenhower de la permission d'envoyer des soldats français, sous uniforme américain certes, pour être les premiers à entrer dans Paris. C'est la fameuse colonne Leclerc. Ce qui permettra aux Parisiens de s'imaginer qu'ils sont délivrés par des troupes françaises, alors qu'ils sont délivrés par les Américains. Et les troupes françaises de Leclerc ne sont qu'une toute petite, une infime partie de ces envahisseurs ou de ces libérateurs américains. La police se vantera d'avoir été extrêmement courageuse, puisqu'elle arborera dès le 19, je crois, le drapeau français au-dessus de la préfecture de police. On dira, mon Dieu, ces policiers sont vraiment courageux. Mais non, parce que la police sait ce qui se passe. La police sait que les Allemands sont en train d'évacuer. Mais cette police, elle est terriblement compromise avec la collaboration. Les policiers français qui obéissaient à la fois à Pétain et à Hitler avaient fait des arrestations massives de juifs et de résistants. La prison de la Santé, qui était prévue pour 1000 prisonniers, en avait 3000. Alors la police, pour se faire obéir, avait besoin, comment dirais-je, de se blanchir. Alors c'est la police qui va inaugurer le drapeau français, le premier drapeau français qui va flotter sur Paris, alors que ce n'est aucun péril pour elle, mais c'est pour se faire admettre de la résistance. Quand De Gaulle va arriver à Paris, nous sommes le 25 juin, oui, la fois le 25 août, la première chose qu'il fait, c'est de passer, pardonnez-moi l'expression, une véritable engueulade, à Leclerc qui avait signé la capitulation avec von Koltitz. Or, Leclerc avait accepté qu'au bas de ce document de capitulation, une autre signature que la sienne figura. La signature du colonel Roll Tanguy, R-O-L, trait d'union Tanguy, qui était le chef des communistes en révolte à Paris. Et De Gaulle dira à Leclerc, ne vous rendez pas compte de l'erreur politique énorme que vous venez de commettre en admettant qu'un représentant du Parti communiste signe une capitulation. Pour Leclerc n'a qu'à baisser le nez en se disant « je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais ». Et que fait De Gaulle en arrivant à Paris? Un, il va donc à Gare Montparnasse pour confirmer la capitulation. Il va ensuite rue Saint-Dominique au ministère de la Guerre, qu'il avait quitté le 12 juin lorsque le gouvernement s'était replié sur Bordeaux, pour dire « je suis maintenant le chef de l'armée ». Il va voir ensuite la préfecture de police comme s'il était d'abord préoccupé d'avoir entre les mains les deux instruments de contrainte, c'est-à-dire l'armée et la police. Et enfin, en fin de journée, il va aller à l'hôtel de ville où le CNR, Comité National de la Résistance, est réuni depuis des heures, l'attendant avec une espèce de ferveur. Ces gens de la Résistance, depuis des années, criaient « vive De Gaulle ». Tout à coup, ils vont se trouver en présence physique, enfin chair et en os, de cet homme qu'ils ont tant acclamé et tant vénéré. Or, le général De Gaulle ne fera qu'une apparition très brève à l'hôtel de ville, assez froide. Deux personnes qui étaient là et qui ne s'aiment pas m'ont dit les mêmes choses. Il y avait Bidault d'une part, il y avait François Mitterrand d'autre part, qui était là aussi, et qui dit « le général De Gaulle a été très désagréable avec nous, il est resté qu'une vingtaine de minutes, nous faisions un grand cercle enthousiaste autour de lui, et là, au centre de ce cercle, il remuait la tête de droite et de gauche comme pour s'éventer de propos importants ». Les gens de la résistance sont extrêmement tristes, mais ils pensent que c'est le général qui est fatigué, et le surlendemain, De Gaulle va réunir le CNR pour leur dire des choses amères. Qu'est-ce qu'il leur dit donc, de Gaulle, quand il réunit le CNR dans son bureau de la rue Saint-Dominique, c'est le 28 août, et il leur dit, vous étiez, vous avez remarqué, hein, au passé, vous étiez le CNR, il n'y a plus de comité national de la résistance, il n'y a plus de résistance, je suis là. Alors, vous, membres de la résistance, je vais vous nommer dans l'assemblée consultative. Il avait réuni, comme Bonaparte, une assemblée consultative qui était purement fictive, qui n'avait aucun pouvoir réel, et des gens s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils sont mis totalement à l'écart. Et De Gaulle a une phrase d'une dureté incroyable dans ses mémoires à ce propos, il dit, après avoir recueilli les observations résignées ou véhémentes, je déclarais que l'audience était terminée. Ces pauvres types du CNR, vous savez, sont matraqués. À l'impression qu'ils se sont battus, non pas pour rien, certes, ils ont contribué à la libération de Paris, mais ils voient que De Gaulle veut les tenir à distance. Rendez-vous bien compte de ceci. Le général De Gaulle, pendant 14 mois, va être le monarque absolu de la France. Or, en France, pays démocratique, lorsque quelqu'un est le chef de l'État, il doit être appuyé par le suffrage universel. De Gaulle s'est contenté de cette espèce de sacre qu'il a obtenu de l'acclamation des Parisiens, lorsque le 26, il avait défilé, vous le savez sans doute, depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à Notre-Dame de Paris, au milieu d'ovations, mais enfin ça, c'est des ovations de Parisiens, lesquels Parisiens, au mois d'avril 1944, avaient acclamé le maréchal Pétain que les Allemands avaient amené là. C'est donc pas autre chose qu'un sacre apparent. Un véritable sacre, c'est là, c'est le suffrage universel. Eh bien, De Gaulle va attendre 14 mois pour consulter le suffrage universel. Au tome 2, je crois, au début du tome 2 de ses mémoires, De Gaulle va dire « l'espèce de monarchie que j'avais assumée ». Mais non, c'est pas une espèce, c'est une monarchie absolue, car pendant 14 mois, c'est sa seule autorité qui décide de tout, étant donné que la commission consultative n'a pas de pouvoir réel. Alors, examinons un peu ce qu'il va faire pendant ces 14 mois de dictature, de toute puissance. Regardons du point de vue social, du point de vue international et du point de vue colonial. Le point de vue social. De Gaulle avait annoncé une très grande, la plus grande révolution. Et il fera des choses, c'est parfaitement vrai, il fera des choses. Il va faire des nationalisations. C'est lui qui va obtenir, prescrire, la nationalisation des houillères, la nomination de gaz et d'électricité. C'est lui qui va nationaliser un certain nombre de banques, les banques de dépôt. Pas les banques d'affaires, hein, pas la Paribas, on n'y touche pas, les banques de dépôt comme le Crédit Lyonnais. Il va refondre la législation des fermages et des métayages dans un sens très favorable aux paysans. Il va également imposer aux entreprises les comités d'entreprise, ce sont des ouvriers qui maintenant vont se réunir obligatoirement et contrôler un peu les cadences de travail et surtout les questions sanitaires, sans avoir le droit de contrôler la gestion de l'usine, mais en fait tout de même une participation, la première participation ouvrière aux entreprises, et le général se vantera beaucoup d'être celui qui avait donné le suffrage aux femmes, c'est vrai. C'est avec De Gaulle que les femmes françaises auront pour la première fois le droit de voter. Laissez-moi vous dire entre parenthèses que le général sait très bien ce qu'il fait en donnant, enfin croit savoir ce qu'il fait en donnant le pouvoir politique aux femmes. Il se persuade un peu à tort que les femmes sont des éléments conservateurs, qu'elles voteront à droite et que par conséquent il n'aura pas de difficulté avec elles. Il a donc fait socialement des choses. Mais enfin, entre ces quelques réformes intéressantes qu'il a faites et l'énorme révolution qu'il avait annoncée, vous reconnaîtrez qu'il y a une certaine distance. Voilà du point de vue social. Du point de vue international, je vous ai dit que De Gaulle se félicitait en 1942 de ce que les Russes ont participé considérablement à la victoire. Et je vous avais dit son arrière-pensée, à savoir politique d'équilibre entre les Américains et les Russes. Alors il va se précipiter, dès la fin de l'année 1944, en Russie, pour voir Staline. Son arrière-pensée est la suivante. Il sait très bien ce qui s'était produit après la guerre de 14-18. Vous vous rappelez que les Allemands étaient dans un état épouvantable, qu'il y avait une extraordinaire misère en Allemagne. Mais il ne faut pas oublier que si l'Allemagne fait un redressement économique considérable et bientôt un redressement militaire, c'est grâce à des capitaux américains. Les Américains considéraient qu'on ne peut pas laisser cette Allemagne comme ça inutilisable, ils avaient donc engagé de l'argent, ils en avaient pas mal gagné. Et De Gaulle se dit, ça je ne veux pas permettre que ça recommence, je ne veux pas que les Américains restaurent une puissance économique allemande. Or, quelles sont les deux nations qui ont vraiment subi dans leur chair l'occupation allemande? Par les Anglais, les Allemands n'ont jamais débarqué. Par les Américains, certainement pas. Oui, la France et la Russie. La France et la Russie ont été des victimes dans leur chair d'occupation allemande. Alors De Gaulle voudrait jouer la politique suivante auprès de Staline et va lui dire, écoutez, nous avons tous les deux le même intérêt à ce que l'Allemagne reste une puissance écrasée, ne reconstitue pas un Reich, que ça soit un embryon, enfin un groupe de Länder, comme vous savez, la France de l'Allemagne de Westphalie. Mais Staline est un homme positif, hein, un donnant-donnant. Et il dit à De Gaulle, oui, je suis d'accord, à condition que, à condition que vous, de Gaulle, vous reconnaissiez comme seul pouvoir légitime en Pologne ce gouvernement communiste que Staline avait établi à Lublin. Or, il y avait, de Gaulle les connaissait physiquement, le gouvernement provisoire de Pologne qui était réfugié à Londres. Et de Gaulle ne peut pas trahir ses amis de Londres, et surtout il n'a pas envie de constituer en Pologne un pseudo-gouvernement ultra et uniquement communiste qui serait à Lublin. Alors il résiste, il dit à Staline, moi je ne peux pas, si bien que le voyage que de Gaulle a fait au Kremlin, c'est un coup d'épée dans l'eau. Quand il revient, il a le sentiment qu'il a raté de ce côté-là. Et lui qui avait tellement voulu que la France ne soit pas un satellite américain, et qui avait même été d'une certaine dureté, je dois dire qu'il avait été exaspéré du fait qu'il n'ait pas été invité, lui, représentant la France, ni à Yalta qui est en janvier 45, ni à Potsdam qui est en juillet 45, et qu'il avait considéré que les grands considéraient, estimaient la France comme une puissance secondaire, et qu'il avait même été assez méchant à l'égard de ce malheureux Roosevelt, qui, vous savez bien, était très malade, va bientôt mourir, et qui, au retour d'Yalta, s'était arrêté à Alger en priant le général de bien vouloir venir le voir de Paris à Alger. Le général avait répondu avec une hauteur que je trouve un peu pénible, si le président Roosevelt veut me voir, il n'a qu'à se déplacer et venir à Paris. Roosevelt n'avait pas aimé ça, il avait dit en souriant, de Gaulle se conduit comme une prima donna, mais néanmoins, de Gaulle est bien obligé de capituler. Il va aller, comme on dit, à Canossa, et deux fois en 44 puis en 45, il va aller la main tendue auprès des Américains, car la France ne pouvait vivre financièrement et économiquement qu'avec l'appui américain. Il a donc raté le malheureux de ce qu'il avait tenté de faire, à savoir d'éviter que la France soit un satellite américain. Et il se résigne à cette coupure de l'Europe en deux, l'Europe de l'Est, satellite russe, et l'Europe de l'Ouest, belge et français, satellite américain. Colonialement. Vous savez bien que la 4e République finira par se détruire à cause des affaires coloniales. Il y a l'affaire d'Indochine d'abord, qui se terminera en 54 par Dien Bien Phu et le partage d'Indochine, et surtout il y aura la terrible histoire d'Algérie. Mais je dois vous dire, sans joie, que de Gaulle est responsable des deux événements. Voyons, prenons l'Algérie d'abord. Le 8 mai 45, se produit à Sétif, dans le Constantinois, une manifestation très grave. Organisée par qui? Organisée par les anciens officiers algériens qui avaient servi dans les troupes françaises et qui avaient connu là une véritable fraternité. Vous savez, les officiers français traitaient ces Algériens comme des camarades. Mais lorsque les officiers algériens démobilisés reviennent chez eux, ils s'aperçoivent que rien n'a changé à la condition de leurs parents. Et que ces parents, qui sont presque tous des paysans, sont asservis comme ils l'ont toujours été. Alors ce 8 mai 1945 à Sétif se produit la première manifestation nationaliste algérienne où on verra dans les rues de Sétif ce drapeau qui est aujourd'hui le drapeau de l'Algérie, le drapeau vert et blanc, avec des anciens officiers qui disent « mais on s'est battu pour la libération des peuples, il y a un peuple algérien à délivrer ». Dans la nuit du 8 au 9 mai se produisent des horreurs. Il y a des paysans qui étaient au service des colons et que les colons prenaient pour des gens à dos courbes qui étaient tout à fait asservis. Voilà un certain nombre de ces paysans qui se révoltent contre les colons et qui conduisent d'une manière, je le dois dire, affreuse. Puisque dans la nuit du 8 au 9 mai, il y aura 109 assassinats d'Européens par des Algériens. 109. Et je dois vous dire, parce qu'il faut tout dire, que ces révoltes en Afrique du Nord sont pas mal affreuses. Vous savez, pardonnez-moi le détail, mais enfin, les hommes, on leur coupe les parties sexuelles, on leur enfonce dans la bouche, et les femmes, on les éventre après les avoir violées. Affreux, hein. Nuit du 8 au 9. Répression. Alors, on envoie contre ces malheureux Algériens, on envoie d'abord la Légion étrangère, ce sont des robots, on envoie des Sénégalais qui ne sont pas des Arabes, et le chef de la répression avouera, 800 morts, c'est déjà pas mal, hein, 800 contre 103. En réalité, le chiffre est bien supérieur. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans les jours qui ont suivi le 9 mai, les commandos de colons vont s'organiser pour des représailles. Ça durera 4 ou 5 jours. Des représailles horribles. Le FLN, plus tard, hein, vous savez, les révoltés algériens diront, ils nous ont tué 50 000 hommes, c'est faux. Mais évidemment, les colons vont faire des choses affreuses, vont se jeter sur des douars, vont assassiner tout le monde, femmes, enfants et gosses, on va jeter des cadavres, quelquefois encore un peu vivants, dans des trous avec de la chaux. Résultat, estimation les plus faibles, 20 000. Alors l'armée aurait tué 800 hommes, les colons auraient tué 20 000 personnes. Je me rappelle très bien, j'étais sous l'occupation qu'en 42, hein, quand on voyait qu'il y avait une affiche allemande qui disait « vous avez tué un soldat allemand, on va en tuer 10 otages français ». Mais là, en Algérie, il ne s'agit pas de 10 contre 1, ni de 20 contre 1, ni de 100 contre 1, mais de 200 contre 1. Hein. Il y a 109 morts européens, il y aura comme 22 ou 23 000 Algériens écrasés. De Gaulle le sait, et il est tout puissant. Nous sommes le 8 mai 45, ben il ne fera rien. il avait accordé 70 000 droits de vote, il a le droit de vote à 70 000 Algériens triés sur le volet qui étaient au service de la France. Mais ce qui va se produire en 54, c'est-à-dire l'explosion que vous savez, qui aboutira en 62, grâce à De Gaulle, à l'indépendance algérienne, il aurait certainement pu, s'il l'avait voulu, faire des réformes en Algérie qui nous eût épargné à la France l'épouvantable révolte que vous savez. Il avait fait ce qu'il avait pu pour empêcher les Alliés de déclarer la Libye indépendante. La Libye, vous savez, c'était autrefois une possession italienne, la Cyrénaïque, enfin la Tripolitaine. Et De Gaulle disait, mais si vous créez un État indépendant aux frontières de la Tunisie d'une part et de l'Algérie d'autre part, eh bien ça va être la contagion de la défense. Il refusait. 1. Indochine. Profitant de la faiblesse du gouvernement français, les Japonais avaient envahi le nord de l'Indochine. Alors s'était constituée contre eux une résistance à la fois nationale et politique, dirigée par un nommé Ho Chi Minh. Ho Chi Minh était un homme intelligent, qui était en effet marxiste, mais qui était en même temps était très anti-japonais et aussi hostile à la présence française, mais qui avait fait savoir au négociateur français qui s'appelait Saint-Denis la chose suivante. Général de Gaulle a parlé maintenant d'une union, qui ne serait plus une colonie française, qui serait l'union française d'une espèce de Commonwealth. Je suis décidé, disait Ho Chi Minh, pendant un certain nombre d'années, à rester dans l'union française parce que nous avons besoin de la France culturellement et économiquement. Il y avait toutes les chances à ce moment-là de s'entendre. C'était l'idée de Saint-Denis, le négociateur français, l'idée de Leclerc, que le général de Gaulle va envoyer en Indochine, dont nous avons les documents aujourd'hui, et Leclerc disait, notre seule chance, c'est de travailler avec Ho Chi Minh. Que fait De Gaulle? À la suite d'une lettre du 15 août 1945 d'Ho Chi Minh qui dit, nous pouvons nous entendre encore longuement avec les Français à condition qu'on ne rétablisse plus l'administration coloniale. Ben, vous savez que De Gaulle va envoyer un corps expéditionnaire avec des chars pour une reconquête militaire de l'Indochine. Il va sabrer ce Leclerc qu'il trouve trop mou, il va mettre à la place un extraordinaire moine, un capucin, qui était devenu amiral, qui s'appelait Thierry d'Argentlieu, et qui lui était favorable aux méthodes de force, et vous savez sans doute, c'est l'amiral d'Argentlieu qui avait décidé en 1946 du bombardement de Haïphong, où il y avait eu une émeute, l'escadre française va tirer sur Haïphong, tuer des milliers de gens, c'est là que va commencer la révolte indochinoise qui tournera si mal. Donc je suis obligé de vous dire, avec tristesse, que le général de Gaulle est pour une part responsable de ce qui va nous arriver à nous Français en Algérie et en Indochine. Il se décide quand même, il le faut bien, à consulter le corps électoral. Nous sommes le 21 octobre 1945. Il se persuadait qu'avec son prestige, le nouveau parti qui s'était constitué et qui s'appelait MRP, avec Bidault, Mouvement Républicain Populaire, et qui s'intitulait le Parti de la Fidélité, va obtenir ce que l'on appelle toujours électoralement un raz-de-marée et que le général de Gaulle aura une chambre à sa disposition. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez les chiffres. C'est assez terrible, hein. La précédente chambre, c'était la chambre du Front Populaire, 36. 73 communistes. Eh bien, dans la chambre de 45, les communistes sont 160. Et comme les MRP ne sont que 152, et que les socialistes sont 142, si l'on admet que les socialistes sont des marxistes, enfin plus ou moins comme les communistes, c'est donc une majorité marxiste que le général trouve devant lui. Il est exaspéré, il est écœuré, il a décidé tout de suite, je ne continuerai pas dans ces conditions, il ne veut pas immédiatement démissionner, mais il en a pris la décision, et c'est ce 20 janvier 46 que le général de Gaulle enverra un message aux Français disant, j'ai remis la France sur rail, Dieu sait que ce n'était pas vrai, on n'a plus besoin de moi, je me retire. En fait, il n'avait pas du tout l'intention de se retirer, nous savons aujourd'hui par des confidences, celle par exemple de Claude Mauriac, qui était le fils de François Mauriac, et qui était le secrétaire particulier du général, et qui a écrit en 71 un livre que je vous recommande, qui est extrêmement important, qui s'appelle Un autre de Gaulle. Nous savons que quand de Gaulle se retire du pouvoir, il ne va même pas dans sa propriété qu'il avait depuis 37 de Colombelles et Deux Églises, il va tout près de Paris, à Marly, persuadé que toute la France va se mobiliser en lui envoyant télégramme sur télégramme pour demander « Mais mon général, revenez !» Il reçoit à peu près rien. Dans l'hiver 45-46, les Français sont très malheureux. Vous savez, les rations alimentaires sont plus faibles que celles de l'occupation. On n'a pas de charbon, les Français crèvent. Et mon Dieu, que de Gaulle soit parti, c'est pas bien grave. Alors c'est là que de Gaulle va prononcer cette phrase qui est célèbre, qui est historique. « Les Français sont des veaux. » Il croyait qu'il était parti pour une quinzaine de jours et il attendra, vous le savez sans doute, 12 ans avant de reprendre le pouvoir. Arrivons maintenant à ce que je voudrais essayer de vous esquisser, le portrait intime, la personnalité de ce général. Il y a une phrase de lui intéressante qu'il avait prononcée devant un journaliste qui nous l'a rapportée. « Dans la situation où je suis, je ne peux pas être moi-même. » Tiens. Et dans ses mémoires, il aura ceci aussi. « Je devais perpétuellement m'élever au-dessus de moi par une contrainte incessante. » Ah, Ça signifie qu'il y a deux réalités. Il y a le personnage de Gaulle, chef d'État de Gaulle, et sous le personnage de Gaulle, il y a un Charles de Gaulle que je voudrais essayer d'entre-deviner. Dans le fil de l'épée, qu'il avait publié en 1932, et qui était des conférences qu'il avait faites en 1927, il y avait un certain portrait de l'homme d'État. Il est évident quand portrait de l'homme d'État, de l'homme d'action, c'est de Gaulle qui pense à lui. Et il disait, ne jamais négliger l'importance de l'aptitude. Le prestige ne va pas sans mystère, on révère peu ce que l'on connaît trop bien. Écoutez surtout les mots qui suivent. L'homme d'action ne se conçoit pas sans une forte dose d'égoïsme, d'orgueil, de dureté et de ruse. Ben, nous allons reprendre tous ces termes. Importance de l'attitude. Quelqu'un qui était tout près du général m'a raconté comment le général se préparait à recevoir ses visiteurs. Il écartait tout papier de sa table avec deux appareils téléphoniques qui étaient là. Et il prenait une certaine attitude, il se redressait bien, il allongeait les avant-bras sur sa table dans une attitude de sphinx, de telle sorte que le visiteur était tout de suite ratatiné. Hein. Voilà pour l'importance de l'attitude. Et maintenant, orgueil, ruse, dureté. Orgueil. Il est certain que le général de Gaulle avait une certaine idée de la France, mais qu'il avait peu d'estime pour les Français. Il avait dit « les Français sont dévoués » et brusquement à Claude Mauriac, qui va sortir une phrase stupéfiante que le petit Claude Mauriac, je l'appelle petit, il avait 15 ans, alors je l'ai connu, il a maintenant 67 ans, vous savez. Enfin, Claude Mauriac dit dans ses notes, « Un jour le général me dit à brûle-pourpoint, dites-moi, Mauriac, il l'appelait comme ça, connaissez les cochons de Chicago ?» Alors Claude lève le sourcil, le général dit, « Bah, quand les cochons de Chicago vont à l'abattoir, ils sont pas contents, hein, mais ils sortent néanmoins en boîte de conserve, c'est la même chose pour les Français. » C'est vous dire, nous avons le choix, nous Français, entre veau et cochon. C'est le général avait un certain mépris pour l'ensemble des Français. Orgueil, je vais encore vous donner un détail. Le malheureux Duhamel, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie française, va trouver de Gaulle pour lui dire, mon général, vous nous feriez un immense honneur en acceptant d'entrer à l'Académie. Le général lève un sourcil et lui dit, mais mon cher monsieur Duhamel, je n'ai jamais entendu dire que ni Napoléon, ni aucun roi n'ait fait partie de l'Académie française. Alors, Duhamel a compris qu'il avait fait une gaffe et il bat en retraite. À l'égard d'un homme comme Bidault, il a bien été obligé, puisque Bidault était chef du CNR et qu'il ne l'aimait pas, de lui donner des fonctions apparentes. Il l'avait nommé, apparemment, vous allez voir, ministre des Affaires étrangères. Vous savez très bien que les affaires étrangères ont un chiffre, hein. Les affaires étrangères communiquent avec les postes diplomatiques en dépêches chiffrées. Alors le petit Bidault, le jeune petit Bidault, envoie des télégrammes chiffrés, mais il ne se doute pas qu'il y a un autre chiffre, qui est le chiffre du général, et que le général, par-dessus sa tête, à lieu Bidault, fait sa politique personnelle avec un chiffre qu'ignore Bidault. Donc sa politique étrangère, c'est le général seul qui l'a fait. On raconte même, et je vous le dis en souriant parce que je ne suis pas sûr, on me l'a dit, mais c'est trop beau pour être tout à fait vrai, le pauvre Bidault se marie, enfin c'est son droit, et il annonce au général que c'est tel jour à telle heure qu'il y a le mariage civil. Le général néanmoins met la réunion du Conseil des ministres une demi-heure après, le pauvre Bidault est obligé d'aller très vite pour faire son opération, et il arrive avec quelques retards, de Gaulle consulte sa montre et lui dit, Bidault vous êtes en retard. Alors Bidault dit, mais je me suis marié mon général, c'est pas une excuse, répond le général, enfin, voyez le genre. Bon. Maintenant alors, parlons de la dureté. Alors là je donne la parole à François Mauriac. François Mauriac dans un très beau livre de 64 qui s'appelle De Gaulle et qui est écrit sous la dictature, presque, enfin la monarchie de De Gaulle. Un livre dont on a dit qu'il était inconditionnel, ce qui n'est pas vrai. Car si vous lisez de près, il y a des remarques assez aiguës de Mauriac. Il y a une phrase terrible que je vais vous citer concernant le 12 septembre 44. Le 12 septembre 44, au palais de Chaillot, on avait réuni des résistants, ceux qui restaient des résistants, ceux qui s'étaient pas fait tuer pour De Gaulle, et qui étaient au palais de Chaillot pour recevoir le général. De Gaulle dit dans ses mémoires, nous espérions que ce jour-là, le général rendrait hommage aux morts de la résistance. Alors voilà ici la citation, elle est courte, assez par cœur. « Un froid de banquise nous glaçait », écrit Mauriac. À savoir que le général n'a pas eu un mot, pas eu un seul mot, pour ceux qui s'étaient fait tuer sur son nom, et qu'il a simplement accueilli, d'une manière normale, les hommages fervents qui lui étaient rendus. Je dois vous dire aussi, un peu dépassant ce 46 dont je vous ai parlé, 1946, que lorsque De Gaulle décide, ce que je crois juste, l'indépendance d'Algérie, dont à laquelle j'étais favorable, nous étions beaucoup de Français à attendre que le général prononçât un mot à l'égard de ces Français de vieille souche qui étaient là depuis des générations et qui allaient pratiquement tout perdre. Bon, il avait décidé l'indépendance algérienne, il fallait le faire, mais il était peut-être nécessaire de parler avec un peu de tendresse de ces Français qui étaient à l'Algérie. Pas un mot. Donc, extrême dureté. Quant à la ruse, il y en aura tellement que ce n'est pas la peine que je vous l'explique. Mais je tiens maintenant, en terminant, à vous dire que derrière ce personnage composé, le personnage de dureté, de ruse et d'orgueil, il y avait un certain Charles de Gaulle qu'il faut entrevoir. L'année dernière, en 80, son fils Philippe a publié les deux premiers volumes de documents personnels. Il y en a encore deux autres à sortir, ça s'arrête à 40. Il y a certains de ces documents qui sont surprenants. Exemple ceci. Tout à l'heure, vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit que de Gaulle, le 28 mai 1940, avait fait une opération extrêmement courageuse où il avait fait refluer les Allemands sur 40 kilomètres. Le soir, figurez-vous, le général écrit à sa femme, il y a 19 ans qu'ils sont mariés. « Ma chère petite femme chérie », écrit-il à Yvonne Vandroux, « en plein combat, je me suis rappelé que c'était un anniversaire, alors je t'embrasse de tout mon cœur. » Le général ne laissera jamais publier des photographies qui avait été prise à Londres, où on le voit assis sur le bord d'une fenêtre avec sa femme. Et il la regarde avec une douceur, avec une tendresse qu'il ne permettait pas de révéler. Le général affecte la plus grande dureté, la plus grande indifférence, la froideur, alors que c'est un homme plein de sensibilité. Je vais vous raconter un petit détail que Clavel m'a dit. Clavel, au moment de la traversée du désert, vous savez, quand le général n'est plus rien jusqu'à 58, Clavel tenait compagnie au général qui, quelquefois, ne recevait personne. Et un jour, Clavel parle au général d'une difficulté personnelle qu'il a, je crois, un divorce, et il dit « Je suis très triste parce que mon petit garçon ne veut plus me voir. » Puis il se mord le doigt, après il dit « Qu'est-ce que je raconte au général, des histoires privées, lui qui pense cosmique ?» Et voilà que, 5-6 jours après, on frappe chez Clavel, il ouvre son petit garçon, qui le regarde avec de grands yeux, qui lui dit « Papa, lis !» Et ce petit garçon de 9 ans avait une lettre de 4 pages que le général de Gaulle lui avait écrite à lui pour le réconcilier avec son père. Ce n'est pas la preuve d'une dureté profonde, hein. Quand vous pensez de Gaulle, pensez à ceci, qu'il avait depuis 1928 jusqu'à 1948 une fille mongolienne, qui s'appelait Anne. Madame de Gaulle, qui était très avare de confidence, dira « Mon mari, où que nous fussions, allait toujours passer au moins une heure et demie avec Anne, parce qu'il était le seul à pouvoir la faire un peu sourire. » Ce général, qui n'a pas beaucoup de talent de pianiste, jouait du piano à sa fille mongolienne, pour essayer de la divertir. Et puis, il y a ce que vous savez, ça a été raconté, c'est pas moi qui vous l'apprends. Les funérailles de cet enfant, en 48, hein. De Gaulle n'est plus au pouvoir, les journalistes sont des gens qui guettent tout, bien sûr. Et ils vont regarder le général et sa femme qui sont devant la tombe de la petite, et ils s'aperçoivent que le général, qui a son bras par-dessus, a laissé descendre sa main pour attraper la main de sa femme. Et il lui dit, à voix basse, bah, tu vois, aujourd'hui, Anne, elle est comme tout le monde, puisqu'elle est morte. Donc, derrière ce personnage de dureté, il y a un personnage secret. Je dois vous dire qu'une des choses qu'il faut savoir sur Général de Gaulle, c'est à quel point cet homme était indifférent aux questions d'argent. Le petit Claude, a relaté une phrase que je vais vous dire et qui me frappe beaucoup. J'aime pas les socialistes parce qu'ils sont pas socialistes. J'aime pas les MRP parce qu'ils sont MRP. Et j'aime pas mes partisans parce qu'ils aiment l'argent. Savez-vous, on le sait très peu, que lorsque le général de Gaulle, ayant été presque 11 ans président de la République, le gouvernement français lui préparera une retraite considérable. De Gaulle refusera son ample retraite de président de la République, se contentant de sa petite retraite de général de brigade, au point que Madame de Gaulle aura les plus grandes difficultés à entretenir qu'on obéit les deux églises. Savez-vous que quand on faisait des cadeaux à De Gaulle, savez-vous qu'à Brazzaville, en 1944, on lui avait remis une pépite d'or qui représentait vaguement la forme de l'Afrique. Il a refusé de la toucher. Il a dit tout de suite ça au musée. Tous les présidents de la République française ne t'ont pas eu de ces noblesses. De Gaulle est un homme irréprochable. Je ne pense pas que c'était un homme chrétien. Il allait à la messe, il communiait. Mais je n'ai rien trouvé qui indiquât une pensée métaphysique dans ses œuvres, que je porte en lui de près. Je vois qu'il parle à un moment de l'héroïsme du Nietzsche, enfin, le culte divin du héros. Bah, c'est Nietzsche, ça c'est pas chrétien. Je vois une autre phrase où il dit, certes, la perfection évangélique ne conduit pas à l'empire. Ben, il préférait l'empire à la perfection évangélique. Mais ce qui me frappe énormément, c'est de très belles pages des mémoires où il parle de son dernier entretien avec Staline. Staline l'a accompagné jusqu'à la porte du Kremlin, il voit bien que De Gaulle est déçu. Et Staline va prononcer une phrase qui va entrer profondément dans le cœur de De Gaulle, tellement ça correspond à sa pensée. Staline lui dit, vous savez, De Gaulle, après tout, hein, dans les affaires humaines, c'est toujours la mort qui gagne. Et ben, De Gaulle est un pessimiste. C'est un homme qui a une certaine idée de la France, qui veut faire de sa vie une grande vie, personnage shakespearien, c'est pour ça que je vous disais qu'autrefois il aimait tellement jouer la comédie. Il va jouer la comédie de sa vie, une grande comédie, de quelqu'un qui est voué à toute autre chose qu'un avancement personnel, qui laissera son nom tatoué sur l'histoire, une grande destinée. J'ai essayé, voyez-vous, en trop de minutes, de dessiner très vaguement la personnalité de De Gaulle. Lorsque, dans 20 ans, il y a longtemps que j'aurais disparu, quelqu'un plus plus renseigné que moi vous présentera un portrait plus complet de Gaulle. Mais ce que je sais avec une absolue certitude, c'est que qui que ce soit qui parlera plus tard de Gaulle ne pourra pas oublier. Quoi donc? Ce qu'il a fait en juin 40, à savoir l'acte déterminant d'un homme qui s'est jeté à travers le destin et qui l'a obligé à changer de route.